France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain à deux mois des élections municipales.
C'est le jeu, on ne peut pas plaire à tout le monde, on prend des décisions, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Et les communes n'avanceront pas s'il n'y a pas d'élus.
Nous sommes en direct de Luis dans le département de l'Ain à 1h20 à l'est de Lyon et nous avons choisi de nous installer ici dans une commune de moins de 1000 habitants avec deux objectifs. Comprendre quelle est la particularité de ces plus petites communes où la mairie est si importante.
C'est du lien social, juste pour dire bonjour et pour parler de la météo, ou pour juste pour dire je m'aimerais bien parler au maire parce que ça va pas.
Mais nous sommes aussi ici pour vous donner la parole. Qu'attendez-vous de ces élections et de vos élus? Voilà pourquoi cette émission est exceptionnellement en public aujourd'hui. Il y aura donc des questions pour nos invités, des échanges et des reportages. Nous irons notamment à la rencontre d'un maire également patron de ski dans ce même département de l'Ain. Sans oublier toute l'actualité de ce jeudi avec vous, Sarah Mansoura. Bonjour Sarah.
Bonjour à tous.
À commencer par la crise agricole qui s'invite dans les rues de Paris.
Offensive symbolique des agriculteurs jusqu'au cœur de la capitale pour dire non à l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Ils ont alpagué la présidente de l'Assemblée nationale venue à leur rencontre. Nous y serons. Attention à la tempête. Des vents comparables à ceux d'un ouragan sont attendus par le littoral ouest. La Manche en vigilance rouge. Ce soir, dans le Cotentin, on se calfeutre déjà. L'image a fait le tour du monde, celle d'un agent de la police de l'immigration américaine abattant une femme au volant de sa voiture, haïssée déjà depuis des mois, pointée du doigt pour des morts accidentelles. Et puis à la une aussi, le gouvernement au chevet du verrier Arc. Et puis, un détour par le Koweït pour parler trophée des champions en football.
Et puis juste avant 14h, notre clin d'œil ici dans l'Ain pour deux conteuses qui ont sillonné le département pendant 2 ans et en ont collecté les légendes. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Luis, 906 habitants dans le département de l'Ain, au bord du fleuve Rhône. Son bourg à 500 mètres d'altitude. Son école, une soixantaine d'élèves, son bureau de poste ouvert le matin, du mardi au samedi, sa gendarmerie, son restaurant, sa boulangerie, son épicerie, son coiffeur, plus de distributeur de billets, la banque a fermé il y a quelques années, mais encore un médecin et une salle des fêtes flambant neuve qui nous accueille donc aujourd'hui. Voilà le décor de ce 13-14 pour la première de nos émissions consacrées aux élections municipales. Nous avons choisi de débuter par les communes les plus nombreuses, qui sont aussi les plus petites, les communes de moins de 2000 habitants, les communes et ceux qui les font vivre avec donc les habitants et les élus. Je voudrais en saluer deux. Emmanuel Ginet, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi, Jérôme Cadet, de t'accueillir dans cette salle des fêtes et toute ton équipe.
Vous êtes le maire de Luis.
Et je suis le maire de Luis.
Et vous terminez votre premier mandat. Il y en aura vraisemblablement un second. Vous représentez, vous êtes le seul candidat avec
pour l'instant.
Votre liste. Pour l'instant, vous pouvez nous présenter ce lieu, Emmanuel Ginet. Vous en êtes si fier. Il n'a que quelques mois.
Oui, alors la salle des fêtes, ça a été un de notre projet phare de notre mandat, entre autres. Donc, il y a eu à peu près une année de travaux. L'ouverture, l'inauguration s'est faite au mois de septembre. Il y a déjà eu quelques manifestations. Donc, cette salle des fêtes est faite pour les associations.
Le repas des anciens,
le
notamment.
Le repas des anciens.
Les plus de 75 ans ici, hein, à Luis.
Oui. C'est les plus de 75 ans.
Ça rigole pas.
Donc, et on a quand même une maison de retraite, un EHPAD. Sur la commune.
Et me dit-on, la salle est réservée jusqu'à l'automne, donc ça fonctionne plus
bien. Oui, et même pour le réveillon du jour de l'année prochaine.
Bon, déjà, donc il faut vous y prendre tôt si vous êtes dans la région. À nos côtés également, Annie Bionda, bonjour.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la maire de la commune voisine, Ambléon. Vous terminez votre deuxième mandat et demi, oui. Commune un petit peu plus petite.
Bien plus petite.
Hein. Annie Bionda, combien de
110
habitants,
110
habitants. Oui. Et vous, votre fierté, c'est d'avoir rénové, sauvé votre chapelle.
Oui. Exactement. C'est une chapelle qui avait un gros souci au niveau des fissures, le terrain qui bougeait. Donc, on a fait. Je suis très fier d'avoir permis effectivement de restaurer cette chapelle.
Mais vous avez décidé de ne pas prolonger.
Et j'ai décidé de ne pas prolonger parce que je trouve que 2 mandats et demi, c'est déjà bien. 15 ans de sa vie personnelle consacrée à sa commune.
Plus de 70 ans.
Et puis plus de 70 ans, on va dire. Oui, un peu plus de 70 ans quand même. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi à un moment donné, même si on a envie de, on aurait envie de continuer, il faut laisser aussi la place à la jeunesse pour qu'ils apportent eux aussi leur vision sur les petites communes.
Mais vous ferez vraisemblablement partie du prochain
conseil municipal. Alors par contre, je passe le relais. Oui, j'ai accepté effectivement d'être dans l'équipe municipale. On a actuellement effectivement une équipe qui se présente et je ferai partie de l'équipe pour voilà, comme on dit, faire le tuilage.
15 ans de votre vie donnée aussi à la collectivité parce qu'être maire Emmanuel Ginet, c'est être disponible. Vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé le 31 décembre?
Le 31 décembre, on a eu une coupure, enfin une rupture sur la canalisation du réseau d'eau principal sur la commune, sur un hameau. Donc, on a été interpellé parce que la première personne qu'on appelle, c'est le maire ou un de ses adjoints ou un des élus, voire nos agents techniques. Donc, il a fallu faire le nécessaire. Donc, voilà, ça a été réparé depuis.
Et ça fonctionne, on peut en témoigner. Vous avez un petit aperçu en quelques minutes de ce que c'est que la vie d'un élu. On ira beaucoup plus loin, évidemment, à partir de 13h20 avec nos autres invités. Olivia Mollon, qui est secrétaire générale de mairie, ici avec le politologue Romain Meltz, également, qui est venu de Lyon sous la neige. Et je leur remercie déjà nos reportages et puis les questions et interventions du public qui lui aussi a fait le chemin sous la pluie et la neige pour être avec nous. Avant cela, on vous retrouve, Sarah Mansoura, en studio pour toute l'actualité de ce jeudi. Et donc, la colère des agriculteurs qui s'expriment au cœur de Paris.
Les engins campaient entre autres ce matin au pied de la Tour Eiffel ou de l'Arc de Triomphe, mais c'est devant l'Assemblée nationale qu'en fin de matinée, les agriculteurs sont venus manifester pour protester surtout contre la signature prochaine du traité de l'Union européenne avec les pays du Mercosur. La présidente de l'Assemblée nationale a été huée et insultée devant les grilles du Palais Bourbon. Marc Bertrand, vous êtes devant l'Assemblée nationale. Yann Braun-Pivet sifflait, chahutait alors qu'elle venait à leur rencontre.
Ah oui, la présidente de l'Assemblée sort à la rencontre de la foule de bonnets jaunes, des centaines d'agriculteurs face à elle qui hurlent. Yael Braun-Pivet crie qu'ils ont le droit d'être là, c'est la démocratie. Elle essaye d'engager la discussion, mais elle ne peut presque pas en placer une.
C'est des discours, vous nous mentez. Vous êtes des menteurs et des traîtres. Vous avez sacrifié l'agriculture.
Les députés, ils ont voté contre le Mercosur. Montrez que vous avez du pouvoir.
Il faut partir, madame.
Elle s'est exprimée très clairement.
Mais vous savez que vous êtes aux mains de l'Europe et de van der Leyen.
Madame, il faut qu'on continue à se battre.
Mais vous savez que c'est fini. Vous êtes vendus. Vous nous avez vendus. Mais c'est pas vrai. Vous êtes des traîtres.
Les CRS se mettent à charger pour exfiltrer la présidente de l'Assemblée. Ça crie démission, ça crie Frexit. David est un éleveur de l'Aveyron. C'est le seul tracteur qui a réussi à arriver jusqu'à l'Assemblée.
Qu'ils nous laissent pas crever dans nos campagnes et qu'ils arrêtent d'abattre nos troupeaux. Je trouve ça lamentable, la dermatose, d'abattre des troupeaux et encore plus lorsqu'ils sont vaccinés. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase à la DNC. Personne ne nous soutient, c'est plus possible, on se sent abandonné.
La tension est retombée depuis une heure, les agriculteurs sont toujours serrés contre les grilles de l'Assemblée par un cordon de CRS. On est traités pire que des poules, c'est ce que dit l'un d'entre eux.
Marc Bertrand avec Selim Guéribi pour les moyens techniques. Merci à tous les deux. Yael Braun-Pivet doit rencontrer dans une petite heure les syndicats agricoles. Le principal syndicat, la FNSEA, dit attendre un signal très fort demain du Premier ministre au sujet de l'accord de la signature de l'accord avec les pays du Mercosur. La FNSEA qui promet des manifestations le 20 janvier à Strasbourg si cet accord est signé. Alors sera-t-il signé ces prochains jours? Pour la France, on l'a compris, le compte n'y est pas, mais elle est en train, la France, de perdre un de ses principaux alliés dans cette bataille. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
En direct de Rome, car l'Italie, Bruno, s'apprête à dire oui à cet accord.
C'est même acquis, me disait ce matin un officiel à Rome, et cela recoupe les déclarations des deux ministres en charge du dossier, Affaires étrangères et Agriculture. L'un souligne les énormes avantages de ce traité, l'autre affirme ce matin dans la presse que l'Italie est prête à donner son feu vert. Pourtant, en décembre, Rome disait encore non. C'est une évolution de la Commission européenne sur un sujet connexe qui explique le changement. Bruxelles envisageait de réduire le budget de la politique agricole commune à partir de 2028. Cette semaine, la copie a été revue et c'est avant tout ce que voulait l'Italie. Un diplomate me le confirme ce matin. Giorgia Meloni s'est servie du Mercosur comme moyen de pression pour obtenir des bougées sur la PAC. Reste de réserve, Rome demande un geste de plus sur les clauses de sauvegarde, la suspension de l'accord avec le Mercosur s'il s'avère trop désavantageux pour les agriculteurs européens, et puis le refus du principal syndicat agricole, la Coldiretti. Mais dans le jeu de lobbying, d'autres secteurs comme l'industrie, très favorable au traité de libre-échange, pèsent lourd dans une Italie où les exportations, c'est l'équivalent de près de 40% du PIB.
Bruno Duvic, merci, correspondant d'Inter à Rome. Et en revanche, ce matin, l'Irlande confirme réaffirme sa position dans les rangs des États opposés à cet accord Mercosur. Dublin annonce qu'elle votera contre, comme la France, la Pologne ou la Hongrie, ce qui ne devrait pas empêcher l'obtention d'une majorité. C'est un dossier emblématique de fraude fiscale à grande échelle. La banque HSBC accepte de payer 267 millions d'euros d'amende dans le cadre de l'affaire dite du stratagème fiscal Kumkum, un montage qui permettait à des investisseurs étrangers d'éviter l'impôt sur les dividendes français. L'accord présenté lors d'une audience ce matin devant le tribunal de Paris met fin aux poursuites. HSBC est la deuxième banque, après une filiale du Crédit Agricole, à négocier une amende de ce type avec le parquet financier. Aux États-Unis, la mort d'une conductrice au volant de sa voiture ravive les accusations de bavure de la part de ICE, la police de l'immigration américaine. Cette femme de Minneapolis, abattue par un de ses agents, agent d'ailleurs soutenu par Donald Trump qui évoque la légitime défense, cette femme est devenue malgré elle un symbole de la violence attribuée à cette police de l'immigration qui est au cœur de la politique migratoire américaine depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Les missions de ICE, spectaculairement renforcées ces derniers mois, ont aussi été entachées de plusieurs morts.
Oui, au moins 3 personnes sont mortes de manière accidentelle en essayant d'échapper au contrôle de ces agents surarmés et cagoulés. Mais il y a déjà eu une vraie bavure. Le 12 septembre à Chicago, quand un Mexicain sans antécédent judiciaire qui vivait sur le sol américain depuis 20 ans a été tué à bout portant lors d'un contrôle routier. Et comme aujourd'hui à Minneapolis, le département de la sécurité intérieure a soutenu la thèse de la légitime défense. Pourtant contestée par de nombreux témoins, l'agent qui a tiré n'a pas été poursuivi. La police de l'immigration qui s'est transformée en redoutable machine à expulser bénéficie d'une immunité totale et de moyens financiers considérables. 70 millions de dollars l'an dernier d'achats d'armes à feu, c'est 700% de plus qu'en 2024 sous l'administration Biden. Des armes qui se retrouvent entre les mains d'agents pour qui tout migrant en situation irrégulière est un criminel, traité comme tel dans les centres de détention, là aussi où les décès s'accumulent. En 2025, plus de 30 migrants n'ont pas survécu à leur séjour en prison, un record depuis 20 ans.
Précision signée Isabelle Labéry. Nouveau recul des États-Unis sur le climat. Donald Trump a ordonné le retrait de son pays de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, pilier de la coopération internationale sur le climat depuis plus de 30 ans. Bruxelles juge ce matin la décision regrettable, tant ce cadre permet de réduire les émissions et de suivre les engagements des États. C'est dans cette convention qui a été signée, l'accord de Paris que Donald Trump a quitté pour la deuxième fois. Relâcher du CO2 dans l'atmosphère, on le sait, c'est un des moteurs du réchauffement climatique. On parle souvent des méga-feux de forêt comme en Amazonie, mais on apprend aujourd'hui que détruire de petites zones de forêt tropicale peut s'avérer tout aussi dévastateur. Une étude parue hier soir dans la revue Nature, menée par des chercheurs du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Paris-Saclay, montre que défricher de petites surfaces de forêt tropicale africaines et asiatiques peut relâcher parfois beaucoup plus de carbone qu'une déforestation plus vaste. Pour le prouver, bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Les chercheurs ont utilisé une méthode inédite.
Oui, parce que jusqu'ici, pour quantifier la déforestation et donc le CO2 relâché dans l'atmosphère quand des arbres sont brûlés ou coupés, les chercheurs calculaient des moyennes pour des zones assez vastes. Cette fois, Philippe Sied, directeur de recherche au CEA, du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et ses collègues ont utilisé eux aussi des images satellites, mais avec une résolution précise de 30 mètres et vérifier à l'échelle de toute petite zone la biomasse, la quantité d'arbres présents en prenant en compte les repousses. Résultat, depuis 30 ans, nous dit Philippe Sied, plus de la moitié, 56% des pertes de carbone proviennent en fait de défrichements de petites poches, moins de 2 hectares.
Les perturbations vraiment problématiques qui causent des pertes de carbone sont les petits feux dans les forêts tropicales humides et les petits événements de déforestation, notamment dans le bassin du Congo où l'agriculture est beaucoup moins mécanisée, tous les petits exploitations familiales. Elles ne se produisent pas dans des régions où la forêt a déjà été largement réduite. Elles perforent l'intérieur des forêts tropicales qui sont intactes et qui sont relativement riches en carbone.
Parce que le cœur des forêts tropicales humides stocke plus de carbone que des forêts tropicales sèches, les préserver peut s'avérer très efficace pour le climat. L'étude, estiment les auteurs, pourrait permettre de mieux cibler des aides, des crédits carbone par exemple, à des petits paysans qui accepteraient de stopper l'exploitation forestière.
Rémi Brancato, service Sciences Santé Environnement. ans. Quel avenir pour Arc France, un des fleurons industriels français en difficulté. Le célèbre verrier du Pas-de-Calais, fabricant de verres et d'assiettes depuis près de 200 ans près de Saint-Omer, placé en redressement judiciaire hier après des années de plans de sauvetage successifs. Arc, on le rappelle, c'est le 8e site industriel français avec 3500 emplois sur le site. Et signe que le dossier est ultra sensible. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Sarah.
Le gouvernement s'en est très vite emparé. Réunion dès ce matin à Bercy, au lendemain de l'annonce du redressement.
Oui, réunion autour du ministre de l'Industrie qui, selon nos informations, était alerté en fait depuis environ 3 semaines des nouvelles difficultés du verrier nordiste. Alors pas question de revivre le douloureux précédent de Brandt juste avant les fêtes. Cette fois, le gouvernement semble vouloir anticiper. Le ministre Sébastien Martin.
Il est toujours extrêmement important de montrer aux salariés, aux habitants, que nous agissons tout de suite. Il est important de montrer tout de suite cet alignement, cette solidarité. Mais aujourd'hui, on a un signe d'espoir qui est fort.
Et cet espoir du gouvernement, c'est un projet de reprise jugé sérieux, solide, préparé par Timothée Durand, petit-fils du dirigeant historique de l'entreprise Arc. Et s'il croit en l'avenir du site, ce potentiel repreneur prévient, il faudra réduire les effectifs pour s'adapter à un marché des arts de la table en Berne.
On sait ce qu'on doit faire pour redresser ce site français. C'est le projet que je porte, qui va passer certes par des décisions un peu difficiles pour redimensionner le site. On va devoir concentrer la production. Aujourd'hui, il y a deux fours de verre sodocalcique. Le verre sodocalcique, c'est des verres transparents, des gobelets. Et donc, dans mon projet, oui, on concentrera la production sur un des deux fours.
Mais selon la CGT, la fermeture d'un four, ce sont potentiellement 500 emplois supprimés sur les 3500 que compte l'usine du Pas-de-Calais. D'où la présence aussi ce matin des élus locaux. Le président LR de la région, Xavier Bertrand, veut réfléchir dès maintenant aux possibilités de reclassement localement, même s'il faut bien sûr attendre la décision du tribunal sur cette offre de reprise.
Alexis Morel, et de l'espoir à l'inquiétude pour les salariés de l'équipementier automobile du Marais Powerglide. Il avait déjà supprimé plus de 200 emplois il y a moins d'un an. Il prévoit désormais de fermer son usine de Strasbourg cette année, ce qui entraînera, selon les syndicats, la suppression de 320 emplois. Après la neige, voici la tempête. Goretti promet de balayer le car nord-ouest de la France dès ce soir avec des vitesses de vent qui sont celles des ouragans selon les prévisionnistes. 150 à 160 km attendus sur le littoral, notamment dans la Manche, placée en rouge dès ce soir, tandis que 29 départements entrent progressivement cet après-midi en orange. Alors à Cherbourg, on s'y prépare déjà, Marie-Marty Rossian.
Dans le port de Cherbourg, Jean-Jacques s'affaire sur son petit bateau de pêche.
Je vérifie les amarres parce qu'apparemment, il va faire mauvais temps cette nuit.
Les embarcations resteront dans le port, mais il faut bien les attacher.
Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des morceaux de cordes. C'est ce qui permet d'attacher le bateau sur les pontons. Il y a toujours deux à l'avant puis un à l'arrière. Donc, et puis là, on a un de plus dans le milieu.
Jean-Jacques n'en est pas à sa première tempête, mais tout de même, il croise les doigts.
Je serai là demain matin de bonne heure, mais bon, s'il y a de la casse, c'est trop tard. On ne peut rien faire de plus.
Juste à côté, au restaurant Le Clopoint, Richard, chef de cuisine, attend les consignes de son patron pour trancher entre les différents plans possibles.
Fermer plus tôt ou fermer directement ce soir. Des grosses tempêtes comme ça, bon, bah, on est un peu habitué à des vents de 100, 120, mais 140 à 170, ça commence à être violent.
Dans la matinée sur les téléphones portables, tout le monde a reçu le message d'alerte au vent violent, mais André et Jocelyne ne sont pas trop inquiets.
On a l'habitude, les maisons sont taillées pour ici. On a deux petites poules, on va faire attention à nos poules.
Attention toutefois à ne pas prendre cette alerte trop à la légère, estime Marianne.
En fait, à la télévision, ils ont dit que ça serait une bombe. Donc je pense qu'il faut comprendre ça comme quelque chose de très dangereux. J'irai pas, absolument pas, m'approcher de la mer.
La préfecture qui recommande justement d'éviter tout déplacement non urgent.
Un reportage ici, Cotentin. Et en prévision de ce vent, les écoles, collèges et lycées seront fermés demain dans la Manche. La SNCF met à l'arrêt plusieurs lignes de train dès ce soir. Circulation suspendue en Normandie dès 19h. Plus aucun TER dans les Hauts-de-France jusqu'à demain après midi et plusieurs lignes de TER interrompues notamment en Bretagne ou en centre Val-de-Loire dès 20h. Je rappelle, il soufflera jusqu'à 110 km/h dans les terres. Une semaine après l'incendie de Grand Montana en Suisse, on apprend que les propriétaires du bar où 40 personnes sont mortes et 116 blessées lors de la soirée du Nouvel An seront auditionnés une nouvelle fois demain par la justice suisse, alors que les familles de victimes de l'incendie, elles, ont déposé une plainte auprès du parquet suisse. Après le cyberharcèlement du journaliste de nos confrères d'Issy Nord, la Fédération française de football apporte son soutien à Sylvain Charlet, ciblé par des centaines de messages injurieux après avoir dénoncé des chants homophobes lors du match de Ligue 1 samedi au stade Pierre-Mauroy entre le LOSC et le stade Rennais. Le club lillois qui présente ses excuses assure qu'il renforcera les actions de prévention. Restons sur le football, côté terrain cette fois pour parler du classique. La confrontation entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ce n'est pas du championnat, mais c'est le trophée des champions entre le champion de France en titre et vainqueur de la Coupe de France, le PSG, et l'OM, son dauphin, l'an dernier match exporté, comme souvent, et qui se déroule ce soir au Koweït, où on vous retrouve, Xavier Monferrand. Le Koweït, c'est peu habituel pour cet état du golf de recevoir ce type de match. Le Koweït, pas vraiment connu pour être un acteur majeur du foot mondial.
Oui, c'est vrai, Sarah, on a plus l'habitude de parler de ses voisins, notamment le Qatar, évidemment, avec la Coupe du Monde qui a eu lieu en 2022 et puis le fait que le Qatar soit propriétaire du Paris Saint-Germain. On entend plus parler de l'Arabie Saoudite aussi, de plus en plus, et qui aura la Coupe du Monde en 2034. Et puis, eh bien, pourtant, le Koweït était précurseur là-dessus. On se souvient, pour les plus anciens, de ce but arrêté à la Coupe du Monde 82, ce but refusé à Alain Giresse quand le chèque du Koweït était carrément descendu sur le terrain. En fait, le Koweït s'est intéressé très tôt au football et puis a perdu du terrain et s'est fait doubler par ses voisins du Golfe qui ont investi à grand renfort de milliards dans des clubs et des compétitions. Et le Koweït, désormais, eh bien, veut retrouver une place dans le Gotha du football mondial. Voilà pourquoi il a mis un chèque de 3,5 millions d'euros pour s'offrir cette affiche et pour participer à ce fameux soft power.
Xavier Monferrand, merci. En direct de Koweït City, à plus de 4000 km de Luis, dans l'Ain, où on vous retrouve pour ce 13-14 spécial, Jérôme Cadet.
Et avec quelques degrés d'écart également. Merci Sarah Mansour, on va parler de la météo d'ailleurs dans un instant. À tout de suite.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
Si votre seul combat militant se résume à glisser un papier non aux réunions d'équipe le vendredi à 16h30 dans la boîte à idées de l'Open Space, alors vous êtes à l'abri du phénomène sur lequel on zoome cet après-midi, le burn-out militant, quand l'altruisme mène à l'épuisement.
Zoom Zoom Zen, tous les jours de 16h à 18h sur France Inter.
Madeleine avant l'aube, le grand roman de Sandrine Collette. Dans un hameau à l'abri du temps, des familles travaillent une terre ingrate qui ne leur appartient pas. Ils endurent l'injustice en serrant les dents. Jusqu'au jour où surgit une fillette sauvage et révoltée. Madeleine avant l'aube, de Sandrine Collette. Prix Goncourt des lycéens 2024, enfin au livre de poche.
Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390 euros par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Le temps de ces prochaines heures. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour Jérôme.
Météo particulièrement agitée, après la neige et le froid, c'est le retour de la pluie et du vent.
Oui, l'épisode neigeux est terminé, pas partout, pas en montagne. Cet après-midi encore, nous aurons de bonnes chutes de neige jusqu'en vallée sur les Savoies, entre 10 et 20 cm de neige fraîche. Mais après la neige, c'est donc la pluie pour cet après-midi sur une bonne partie du pays. Des pluies qui vont même se renforcer, qui seront localement soutenues, excepté sur l'extrême sud entre les Pyrénées et la Méditerranée, où là, le temps va rester sec cet après-midi, mais avec un ciel de plus en plus nuageux. Et donc, on a de l'air océanique qui s'installe aussi. Les températures sont en hausse pour cet après-midi, jusqu'à 17 à Perpignan, 12 à Brest et Toulouse, 9 à Paris, mais seulement 3 degrés à Nancy et Strasbourg.
Et donc, extrême prudence, on le répète, mais c'est vraiment un message très important aujourd'hui, Patricia. Cette tempête Goretti qui va balayer toute la moitié nord, qui s'annonce particulièrement violente.
Oui, elle se précise, cette tempête, elle se trouve actuellement sur du sud-ouest de l'Irlande et elle va très rapidement se creuser en circulant en manche à partir de cet après-midi. Dans un premier temps, les vents vont se renforcer sur le littoral atlantique, sur les côtes bretonnes et sur le côte de la Manche, mais c'est dans la nuit et le facteur aggravant de ce phénomène météo, c'est la durer car les vents vont souffler en tempête toute la nuit sur la moitié nord du pays, jusqu'à 130-150 km/h sur les côtes de la Manche, avec en plus des phénomènes de submersion sur les départements littoraux, et jusqu'à 100 km/h dans les terres, notamment entre le nord, l'Île-de-France, le centre et les Pays de la Loire. Et pour demain, les vents vont baisser d'un cran, mais ce sera encore une ambiance très ventée et très instable.
Merci Patricia Charbonnier.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Un 13-14 sur le terrain aujourd'hui à Luis, commune située dans le sud du département de l'Ain, un peu plus de 900 habitants, 1h20 à l'est de Lyon. Nous sommes à la limite du département de l'Isère, c'est de l'autre côté du Rhône. Nous sommes dans le Bugey. Un peu de neige ce matin sur les routes, mais pas de quoi dissuader le public nombreux qui est avec nous dans cette salle des fêtes. Merci à tous d'être là pour cette émission exceptionnellement en public, pour participer à la première de nos émissions spéciales d'ici le premier tour, le 15 mars, des élections municipales. Aujourd'hui, c'est donc la vie dans nos plus petites communes qui nous intéresse. Nous en parlons avec nos invités que je vous représente. Emmanuel Ginet, le maire de Luis, qui nous accueille aujourd'hui. Annie Bionda, maire d'Ambléon, commune voisine. Romain Meltz, également avec nous, enseignant en sciences politiques à l'Université de Lyon 2. Bonjour. Bonjour Romain Meltz.
Bonjour.
Merci d'être là, d'avoir fait la route depuis Lyon ce matin. Tout s'est bien passé ?
À peu près.
Bon, à peu près. Bon,
j'ai mis des pneus neige exprès pour
voilà, vous. Vous avez pris vos précautions. Olivia Molon n'a pas eu besoin de le faire. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez ici même, dans cette mairie qui est voisine de la salle des fêtes où nous
tout
sommes en ce moment. Vous êtes la secrétaire générale et principale de la mairie de Luis. Sonia Gobry à vos côtés également. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Journaliste au service politique de France Inter. Vous allez nous présenter deux reportages.
Oui, je suis allée à Giron, la commune la plus haute en altitude de l'Ain. Le maire a plusieurs casquettes, élu et directeur de station de ski. Et puis je me suis rendue à Chazé-sur-Ain, au siège de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, l'une des plus importantes de France.
On va vous retrouver dans les prochaines minutes. Je voudrais qu'on prenne une première question dans le public. C'est un jeune homme. Bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que vous vous appelez ?
Malo.
D'où est-ce que vous venez, Malo ?
Je viens de Belé, une commune de 10 000 habitants, pas très loin d'ici.
Pas très loin d'ici, c'est là où on a dormi la nuit dernière. Belé, vous allez voter, Malo, aux prochaines élections municipales ?
C'est ça, c'est la première fois que je vais voter en mars prochain pour les élections municipales.
Vous habitez à Belé aussi ?
Oui, mes parents habitent là-bas et du coup j'habite avec eux.
Vous y faites vos études ?
Non, j'habite, je fais mes études à Chambéry.
Mais vous votez à Belé ?
C'est ça, je pense, oui.
Comment est-ce que vous allez faire votre choix, votre premier choix de vie citoyenne ?
Je pense que je vais voter à Belé, mais c'est vrai que pour nous, les jeunes, c'est délicat, c'est un peu plus difficile de voter à Belé parce que on sait que notre future vie se fait ailleurs, là où on fait nos études, que ce soit à Lyon, Chambéry, etc. Et du coup, la jeunesse s'intéresse de moins en moins aux élections municipales et voit plus l'aspect national, j'ai l'impression.
Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence pour vous ? C'est quoi le sujet que vous allez regarder en premier pour faire votre choix ?
Eh bien, je pense que les jeunes dans les communes comme la mienne ont besoin d'infrastructures,
ouais,
qu'elles soient sportives, culturelles. Par exemple, moi, je fais du handball. Je sais que c'était un de mes plus grands plaisirs quand j'ai vécu là-bas. Donc, je pense que c'est les infrastructures.
Même si à Chambéry, le handball se porte très bien aussi. Mais vous, c'est à Belé, un peu moins de 10 000 habitants. Je vais soumettre votre question à nos invités qui vous ont écouté attentivement. Autre intervention, bonjour.
Bonjour.
Je peux avoir votre prénom ?
Thierry.
Thierry, vous aviez une question, peut-être intervention ?
Oui, non, c'est plus un témoignage par rapport à la parité qui va s'imposer aux communes de moins de 1 000 habitants. Ancien élu d'une petite commune de 100 habitants, la Bâtie-d'Ivisain, l'autre côté du Rhône, dans l'Isère, effectivement. J'avais souhaité la parité à l'époque et ça amène une sensibilité et vraiment, c'est très, très positif. Faut pas que, je sais que c'est très compliqué, mais faut pas que les futurs candidats aient peur. Ça amène vraiment un équilibre incroyable.
Parité obligatoire pour ce scrutin. Merci Thierry d'être venu. Merci Malo aussi et pour ces questions. Romain Meltz, Malo va voter. Les jeunes votent moins que les plus anciens aux élections municipales ?
Alors les jeunes votent moins, mais Malo fait partie des jeunes qui vont voter parce que quand même, à 18 ans, il y a un rite initiatique et le fait de pouvoir voter touche les jeunes. Donc dans les enquêtes, je ne parle pas de Malo, mais dans les enquêtes nationales, vous avez à 18 ans, les gens votent. Mais le problème de Malo, ce n'est pas le premier vote là, qui va avoir lieu le 15 mars, parce que là, visiblement, il est très motivé pour le faire. Le problème, c'est plutôt celui de 2029-2032, où là, il va avoir une baisse de la participation très forte et Malo va avoir du mal à reparticiper. pendant les scrutins qui viendront après.
Les plus jeunes votent moins que les plus anciens. Est-ce que ça veut dire que les maires, Romain Meltz, bah, dans leur politique, peut-être, ils s'intéressent un peu plus aux plus anciens qu'aux plus jeunes? Est-ce qu'on constate ça?
Eh ben, alors, en tout cas, si j'étais le maire de Luis, c'est-à-dire si j'étais à ma gauche, si je regardais le public là, je me dirais pas, ah, je vais faire un skatepark avec l'argent de la commune, voyez, si je regardais le public.
Oui. Ouais.
Parce que vous êtes allé chercher Malo, mais personne ne l'avait remarqué avant vous.
Non, il est là et il y a d'autres jeunes dans la commune, mais peut-être que ça a traduit aussi la pyramide des âges dans cette commune. Une réaction peut-être Emmanuel Giné, et puis après on parlera de la parité.
Oui, alors je vais pas parler pour le mandat prochain, mais on en parle. Alors, je ne sais pas si ce sera un city park ou un petit stade, mais on en parle pour nos jeunes. Donc,
oui.
Voilà.
Et la jeunesse, c'est une préoccupation parce que l'école perd des élèves. On va parler de ce thème d'ici 14h. Annie Bionda, parité obligatoire maintenant dans les listes pour les communes de moins de 1000 habitants. Thierry nous dit, mais moi, je trouve que c'est une excellente chose. On a entendu d'autres élus dire autre chose ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour moi, c'est une excellente chose. Je vois les deux mandats que j'ai faits. J'ai pas eu de soucis avec la parité. En fait, j'ai monté deux listes. J'avais la parité aussi bien de 2014-2020 que 2020-2026.
Ça ne vous a pas été difficile de convaincre des femmes
De convaincre des femmes. Je pense qu'il faut... les femmes, elles apportent une sensibilité dans, effectivement, le travail collectif qu'on ne retrouve pas si on n'est qu'entre hommes, quoi. Je pense que c'est très important que les femmes, ben, effectivement, elles se... Ben allez, elles y aillent, quoi, qu'elles se disent, bon, ben allez, je vais aussi participer à la vie de la commune.
Mais il y a quand même beaucoup moins de femmes maires, vous le constatez, quand il y a les réunions de l'Assemblée des maires du département.
Oui, mais moi, personnellement, bon, ben, ça me gênait pas, j'étais à la retraite, donc c'est plus facile, on est beaucoup plus disponible que si... je sais qu'il y a des collègues qui travaillent et je pense qu'eux, ils ont la journée de travail, plus après le soir, ils s'occupent de la mairie. Donc je pense que ça doit être un peu compliqué aussi pour eux.
Vous avez prononcé le mot, Annie Bionda, être disponible. La disponibilité sur les attentes justement des habitants vis-à-vis de leurs élus. Je voudrais qu'on pose nos oreilles un instant à l'accueil de la mairie. C'était hier, ici même, à Luis, c'est Grazielli, secrétaire de mairie également, qui était là.
Aujourd'hui, j'ai eu énormément de personnes qui sont passées pour des demandes diverses et variées. Par exemple, avec le froid, c'était un manque d'eau parce que tout était gelé. Souvent, on a des appels, des personnes qui passent. Est-ce que vous connaissez un plombier, un maçon? C'est important pour eux de se déplacer. C'est du lien social aussi. C'est juste pour dire bonjour et pour parler de la météo. Ou pour juste pour dire, je m'aimerais bien parler au maire puisque ça ne va pas. Il y a une voiture qui est toujours garée dans ce côté de la route. Et du coup, je m'aimerais bien passer sur le trottoir. Donc, il y a des personnes qui cherchent juste 10 minutes d'attention. Et donc, on est là.
Écoutez, si j'en sais plus, je vous appelle. Je vais appeler la mairie.
On écoute. On est là pour ça. Donc, ça fait plaisir.
Eh bien, merci d'avoir quand même. Je t'imposais. Bonne journée. Merci.
Au revoir. Olivia Molon, on vient d'entendre votre collègue. Oui. C'est important, le lien social.
Oui, c'est très important. Et puis, parfois, on est les seules personnes que les gens voient. Donc, moi, je dis parfois qu'on est les psychologues du bureau parce qu'on écoute tout, ce qui va pas, ce qui va. Et on est là pour leur répondre. On leur donne un sourire et parfois, ils sont satisfaits. Donc, on essaye d'apporter un maximum de réponses.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui poussent la porte, qui n'ont pas forcément quelque chose de précis à demander.
Non. Des fois, ils arrivent. Bonjour, c'était juste pour vous saluer. Vous souhaitez les vœux, passez de bonnes fêtes. Donc, ça fait plaisir aussi.
Romain Meltz, ça fait partie aussi de l'utilité de ces petites communes. Il y a tout un débat sur à quoi ça sert finalement une commune de un peu plus de 100 habitants et pas beaucoup de compétences, pas beaucoup d'argent. Pourquoi les conserver?
Vous avez tout à fait raison. Il y a un débat qui est récurrent autour du fait que, en fait, dans l'Union européenne, les 27 pays, grosso modo, la France a 40% du total des collectivités de l'ensemble de l'Union européenne.
Bon, 40% des collectivités de l'Union sont en France.
Voilà.
On est les champions d'Europe des collectivités.
Mais écrasant. Plus qu'en foot ou quoi que ce soit d'autre.
D'accord.
Mais alors évidemment, on peut se poser la question.
À quoi ça sert? Bon, oui. Ça coûte aussi de l'argent.
Alors, c'est ça. Ça coûte un tout petit peu d'argent.
Ouais.
Pas beaucoup parce que les maires sont très peu payés. C'est une forme de service public et de maintien de liens du territoire. Et donc, en fait, les élus assurent une forme de service public qui n'a pas exactement le nom de service public traditionnel.
J'ai dit ça coûte de l'argent. Indemnité de maire, Emmanuel Giné.
Ça dépend du nombre d'habitants.
Et donc pour vous ?
Mais c'est autour de 1400 euros.
1400 euros par mois ?
Par mois.
Et pour vous ?
900 euros.
900 euros pour vous. Sur ce débat, il y a trop de communes en France, et puis les plus petites comme la vôtre, en Bléon, un peu plus de 100 habitants, à quoi ça sert ?
Ben ça sert justement, ça a été dit, le lien social avec les habitants, c'est important. Nous, on est une toute petite commune, on n'a aucun service. Le seul service public qui reste, c'est la mairie et c'est le maire et la secrétaire de mairie lorsque la secrétaire de mairie est là.
Vous étiez factrice avant ?
Oui, j'étais factrice.
C'est ça qui vous a prédisposé un petit peu ?
Non, parce qu'en fait, j'étais pas partie pour être maire, pas du tout.
Et qu'est-ce
pas
qui
du
vous
tout.
A décidé ?
J'ai été sollicitée en 2008 pour faire partie du conseil municipal, et puis ça s'est tout enchaîné. Je me suis retrouvée deuxième adjoint, premier adjoint, et en 2011, je me suis retrouvée maire. voilà, j'ai fait face.
Et vous l'avez fait pendant deux mandats et demi.
Et je l'ai fait pendant deux mandats et demi.
Quelques semaines à tenir.
Oui, ben on tient.
Dans ce fauteuil, j'ai l'impression. On a parlé de ces petites communes. Elles sont quand même moins nombreuses. Hein. Il y a beaucoup de communes qui se sont regroupées. Et puis, elles ont aussi perdu des compétences sous l'impulsion de l'État qui leur a demandé d'en donner à ce qu'on appelle les communautés de communes. La fameuse Comcom. Ici, c'est la Comcom de la plaine de l'Ain. 85 000 habitants. C'est la cinquième de France par sa population. 53 communes, elle est très étendue. Sonia Gobry, vous vous êtes rendue hier à son siège. C'est à Chazé, plus d'une demi-heure de route depuis Luis.
Oui, j'ai poussé les grilles du château tout juste rénové. La communauté de communes de la Plaine de l'Ain occupe une partie de ce bâtiment historique. Son président Jean-Louis Guyader me fait visiter.
Donc, la salle des assemblées, c'est l'amphithéâtre. C'est là.
Sont disposés en hémicycle dans ce petit parlement local. On y parle surtout de développement économique. Le parc industriel de la Plaine de l'Ain est très attractif. L'intercommunalité se charge aussi du tourisme, de la protection de l'environnement. Depuis le 1er janvier, elle peut aussi récupérer la compétence eau et assainissement. Mais Jean-Louis Guyader refuse. De manière générale, il regrette que certains de ses homologues aient, je cite, cédé aux sirènes de l'État en s'accaparant de plus en plus de compétences, même quand ce n'est pas utile.
Franchement, si on continue à enlever des compétences aux communes et que le maire n'a plus qu'à gérer que les querelles de voisinage, les enterrements et les mariages, on va vers où ? Vers un maire qui est une espèce de président du comité des fêtes.
Il touche là un point sensible. Bernard Rey, président de l'Association des maires ruraux de l'Ain, est très remonté. Pour lui, il est grand temps de rééquilibrer les compétences entre communes et intercommunalités.
On n'est plus dans l'autonomie des communes. On est dans la mise sous tutelle des communes. Pour moi, une intercommunalité, c'est un outil au service des communes et pas une superstructure au-dessus des communes.
L'élu se dit inquiet pour l'avenir des villages et de la ruralité en France.
Merci Sonia Gobry. Romain Mels, vous qui êtes politologue, je voudrais votre réaction. C'est là aujourd'hui qu'elle se déroule, la démocratie locale, dans cette assemblée que nous a décrit Sonia à l'instant ?
Ah bah là, on n'a pas vu exactement ce qui se passait, parce que la démocratie locale, c'est beaucoup de choses. C'est certes des élus, mais c'est aussi des citoyens qui se mobilisent, qui font des associations.
D'accord, mais c'est là que les décisions se prennent, les décisions importantes au niveau local aujourd'hui ?
Ah non, pas du tout. Les décisions ne sont prises par plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de prise de décision au sens où on se dirait, à partir de ce moment-là, on sait que le TGV a été inventé ou que la fibre a été installée. Ça n'existe pas, ça. Il y a une telle entrechevêtement des décisions, des niveaux d'intervention entre l'arrondissement, la mairie, la commune, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, le département, la région, l'État, l'Europe. Comment voulez-vous qu'on sache où se prennent des décisions ? Personne ne sait où se prennent les décisions.
Oh bah, ouvrir ou fermer un collège, on sait où se prend la décision,
ah, pas du tout.
Concrètement.
Ah mais absolument pas.
Elle se prend pas à Bourg-en-Bresse, la décision.
Ah non, bien
elle
sûr
se prend pas
non.
Par le département.
Elle se prend, ouvrir, bah, vous plaisantez. Ouvrir ou fermer un département, il faut
un collège.
Oui, alors un département, c'est pareil, mais vous avez un collège, il faut que l'éducation nationale soit d'accord, il faut que le conseil départemental soit d'accord, et ce n'est qu'une toute petite partie, parce qu'il faut aussi que la mairie donne le terrain.
Donc les compétences sont mal définies, c'est ce que vous dites ?
Les compétences sont en permanence redéfinies.
Oui.
En permanence, on modifie la loi.
D'accord.
La clause de compétence générale, on l'attribue au département, puis on la retire, on la donne à la région, puis on la retire. Et donc, en permanence, chacun peut faire absolument se saisir d'absolument chacun des...
Et c'est le problème.
C'est quand même un peu un problème, ouais. Oui.
Emmanuel Ginet, sur les compétences, vous avez décidé, je ne sais pas si vous avez toujours eu cet avis-là, mais de garder la compétence sur l'eau.
Alors, nous, on va garder la compétence sur l'eau et l'assainissement, Donc non, on devait transférer au 1er janvier 2026, mais la loi a changé par je ne sais plus quel gouvernement. Mais nous, on va garder l'eau et l'assainissement. On a aussi la compétence de la voirie, parce que la communauté de communes de la Plaine de l'Ain n'a pas cette compétence. Donc nous, on a encore la chance sur notre commune d'avoir encore des compétences qui sont intéressantes à gérer. Mais je suis d'accord avec les présidents qui ont parlé, enfin qui ont été interviewés. Ouais. Si c'est pour s'occuper du chat, du poisson rouge, du voisin, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Mais c'est important de garder des compétences.
Olivia Mollon, vous qui êtes secrétaire de mairie ici, ça veut dire quoi garder la compétence de l'eau? Concrètement,
garder la compétence, c'est qu'on a notre propre gestion une régie communale. On ne dépend pas d'un organisme comme la Suez ou la Sogedo.
Donc les tarifs, c'est vous qui décidez ?
C'est la commune qui décide des tarifs. C'est aussi le fait de pouvoir dépanner un administré qui a une coupure d'eau en urgence. On envoie les collègues. S'il fallait passer par un organisme extérieur, vous seriez pas dépanné tout de suite.
Les contrôles qualité.
Alors ça, on passe par un organisme. On a des contrôles également de l'ARS, qui sont faits régulièrement. Mais avant toute chose, c'est notre agent technique, Gérald, qui gère toutes les stations, qui s'occupe des relevés avec l'autre collègue, et ça fonctionne.
La Comcom, Emmanuel Ginet, ce sont aussi des revenus. Pour oui, vous, 390 000 euros par an.
Par an, oui. Et deux fonds de concours en fonction des projets sur le mandat.
Qui s'explique aussi par la présence d'une centrale nucléaire peu plus à l'ouest.
On a la chance, la communauté de communes de la Plaine de l'Ain est une commune qui a des moyens et qui redistribue à ses communes, à ses 53 communes, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de communautés de communes. Donc on a cette chance-là et surtout qu'on aura de moins en moins de dotations de l'État avec tout ce qu'il nous annonce.
Annie Biondage, je vous vois grimacer.
Nous, on a effectivement transféré des compétences à la communauté de communes, mais on reverse, nous, à la communauté de communes, effectivement, une somme, 4 500 euros par an, parce que on a transféré, effectivement, les compétences.
Vous semblez le regretter.
Alors c'est mitigé parce que effectivement on parlait tout à l'heure avec Emmanuel par rapport à la compétence eau. Une petite commune de 110 habitants, lorsqu'il y a une grosse coupure financièrement, ça fait mal au budget.
Je voudrais qu'on donne la parole ici dans la salle à l'UBIS, dans cette émission spéciale consacrée au municipal dans ce 13-14, à quelqu'un qui participe activement à la vie de la commune depuis un peu plus de 10 ans maintenant. C'est la boulangère, c'est Heidi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fait quoi, une centaine de mètres, c'est ça ?
À peine.
La boulangerie est ouverte cet après-midi ?
Non, elle est fermée cet après-midi.
Là, c'est fermé. Il fallait venir ce matin.
Tout à fait.
Pour le pain. Comment s'organisent vos journées ?
Alors nous, on est ouvert du mardi au dimanche et uniquement le matin de 7h à 12h30.
Ça veut dire que vous tournez les pouces l'après-midi ?
Exactement. Non, pas du tout.
Rien. Non.
Non, l'après-midi, c'est consacré aux livraisons et surtout, on travaille avec des professionnels, beaucoup de restaurants. Donc, l'après-midi, on le consacre pour eux.
C'est très important, je suppose, pour les habitants d'avoir une boulangerie ici. Vous aussi, c'est peut-être quelque chose d'important pour vous de vous être installé dans une commune de moins de 1000 habitants ?
Ah oui, c'était vraiment un choix. Moi, je me serais pas vue dans une grande ville. On a une relation qui est vraiment privilégiée avec les clients dans un petit village. Nos clients, c'est notre famille.
Vous avez des enfants ?
Oui, j'ai 3 enfants.
Ils vont à l'école ici ?
Exactement. Les enfants, les plus petits, ils ont 7 ans et 8 ans. Donc, ils sont à l'école du village. Et ma fille, qui est adolescente, est au collège du village à côté.
Elle y va comment ?
En bus.
Il y a un ramassage qui fonctionne matin et soir et qui fonctionnait ce matin malgré la fine pellicule de neige.
Oui, non, ici on n'a pas peur.
Alors, je ne sais pas si elle avait cours ce matin, mais sans doute. Merci beaucoup Heidi. L'école, Emmanuel Ginet, 135 élèves il y a quelques années, on en est à 66.
66, oui, cette année. Oui.
Il n'y a plus que 3 classes.
On a eu 5 classes et on n'a plus que 3 classes.
Le feu est à l'orange.
Non, c'est encore pas... Oui, c'est à l'orange, mais l'année prochaine, on aura des rentrées supplémentaires. Et sur la commune, il y a un projet de lotissement. Enfin, ce n'est plus un projet qui devrait sortir de terre courant 2026-2027. Et on espère que ça va amener de la force vive et puis des jeunes enfants sur la commune.
Vous voulez attirer des familles, mais est-ce que vous n'avez pas la main, les gens qui vont acheter,
etc. Non, on passe par un aménageur. Mais après, oui, bien sûr, on a pas la main sur les personnes qui vont venir dans notre village. On a la main, par contre, sur le PLU, sur le plan local d'urbanisme et puis de l'aménagement de la parcelle.
Des commerces, c'est important pour attirer des familles. Mmh. Une école, c'est important. Mmh. Des terrains à lotir, c'est important aussi. Une antenne relais pour avoir le téléphone, ça aussi, c'est important.
Oui, elle est en place.
Ces dernières années.
Oui, ça nous a occupé un petit peu, mais l'important, c'est qu'elle est en place. Elle couvre parce qu'on était dans une zone blanche, notamment sur le centre-bourg. Il y avait une partie des administrés qui n'avaient pas accès au réseau mobile.
Ça a donné lieu à des contestations.
Un petit peu.
Et finalement, voilà.
Finalement, ça s'est fait.
Finalement, voilà. Vous avez réussi à aller au bout de...
Mais les contestations font avancer les choses aussi.
Oui. C'est-à-dire?
Ça a fait avancer.
D'accord. Voilà. Ça vous permet d'être meilleur?
Non, peut-être de se poser des questions.
D'accord. Bon,
c'est la
démocratie.
C'est la démocratie.
C'est la démocratie. Le maire qui bâtit, le maire qui peut chercher des commerces, le maire qui parfois dépanne, ou qu'on appelle quand il y a un problème pour l'eau. Et puis ici, dans l'Ain, le maire... patron de station de ski, Sonia Gobry, on vous retrouve. Vous êtes rendu à Giron, au nord du département, 50 km de la frontière suisse, 1000 mètres d'altitude, 180 habitants.
Oui, et cette station de ski, c'est un peu le joyau du village. Pour s'y rendre, on grimpe à 1300 mètres d'altitude avec le maire Florent Moine, mais elle est fermée au sol, au mieux 5 cm de neige.
Quand j'avais 10 ans, il y avait 50 cm de neige de mi-novembre à avril, quoi.
La station n'a pu ouvrir que 2 semaines en novembre, malgré un chiffre d'affaires d'environ 100 000 euros. Elle reste légèrement déficitaire, pas de subvention et des charges importantes. Entretien des machines, salaire de 3 agents communaux et d'un saisonnier.
Effectivement, ça a un coût pour la collectivité, mais on sait pourquoi on la maintient et pourquoi on a ce coût-là. Ouais.
Parce que cette station de ski crée du lien social.
Le touriste, il n'y a plus de vie sociale dans un village de moins de 200 habitants proche de la frontière. On peut vite devenir un village dortoir et c'est ce qu'il faut qu'on essaye de ne pas faire.
Les touristes font vivre 3 hôtels, un bar-restaurant qui fait aussi des pots de pain, de journaux, bien pratiques notamment pour les aînés. Alors des habitants de Giron, comme Ursula, mettent la main à la pâte bénévolement.
Je m'occupe un peu du site internet et de la page Facebook. Même le maire, parfois, il est au départ des pistes et il vend des billets. Hein. Ça, quand il n'y a personne, il s'y colle.
Système D aussi, c'est aussi le maître mot de Florent.
Je me suis rendu compte finalement avec les amis qu'il y avait moyen d'aller récupérer de la neige à un endroit, de la recharger et en 4 heures de temps, 3 allers-retours avec la remorque, on a rechargé de quoi faire 1 km aller et 1 km retour avec les skis de fond au pied.
Le maire de Giron ne prévoit pas de gros investissements pour la station de ski, un choix compris par les habitants.
C'est hors de question, moi-même en tant que citoyen de ce village, de dire on va investir 300 000 euros pour acheter une dameuse, alors qu'on sait pertinemment que dans 20 ans, c'est fini.
À la place, la commune a investi 130 000 euros pour proposer d'autres activités de moyenne montagne. Des pistes de VTT, par exemple, ont été aménagées.
Merci Sonia Gobry pour ce reportage. Florent Moine, je crois qu'il est dans la salle. Il n'a pas pu venir, voilà, mais il aurait dû venir. On salue le plus jeune maire du département de l'Ain, élu lors du dernier scrutin. On entend la solidarité, Annie Bionda, vous qui êtes maire d'Ambléon, tout près de, juste à côté de Luis, la solidarité dans cette commune pour faire tourner la station de ski. Est-ce qu'à l'inverse, parfois, quand on est maire, on se sent un peu seul?
On se sent souvent seul.
Souvent seul?
Oui.
C'est-à-dire?
Oui, oui. Quand on est maire, on a toujours, bien évidemment, une équipe autour de nous. Mais cette équipe-là, lorsque, effectivement, il y a un souci, des fois, ils sont pas là, quoi. Donc, on est un peu seul devant les problèmes. Il faut les résoudre tout de suite. Et parfois, on se sent un peu seul.
Et un peu dépourvu aussi quand il y a des conflits dans la commune, ça.
Alors,
c'est dur.
Les conflits, oui, ça c'est un petit peu malheureusement ce qui arrive dans n'importe quel village et dans n'importe quelle ville. Hein. Mais les conflits, ils arrivent et le maire, il faut qu'il sache aussi, comme je disais, il faut garder raison, il faut faire attention. Il faut rester calme et il faut éviter, quand il y a des conflits, que ça dégénère. Donc, il faut avoir aussi beaucoup, beaucoup de patience.
Alors, la patience, la solitude parfois, mais il y a les conseillers municipaux, il y a son équipe. Ici, à Luis, 15 conseillers municipaux autour du maire. J'ai fait la connaissance hier, Emmanuel Ginet, de votre première adjointe, qui est aussi infirmière libérale, c'est Viviane Vaudrey. Elle fait des tournées à domicile et je l'ai accompagnée. Où est-ce qu'on va ?
J'ai un couple de personnes âgées. C'est surtout de la distribution de médicaments, matin et soir. Et puis, une glycémie capillaire. C'est une surveillance d'un patient diabétique.
Comment est-ce que vous vous organisez entre votre activité d'infirmière, là on va aller voir l'un de vos patients, et puis votre activité d'adjoint au maire ?
Quelquefois, malheureusement, je ne peux pas me rendre disponible parce que si je suis en tournée, je ne peux pas tout lâcher pour pouvoir aller en mairie. Puis bah, y a des choses qui peuvent attendre, il y a des choses qui peuvent se régler par téléphone. Hein,
C'est quoi le type d'appel que vous pouvez recevoir comme ça dans une journée
Un arrêt cardiaque dans un chemin de randonnée.
Mais qui vous appelle à ce moment-là ?
Les pompiers. Quand notamment, il peut y avoir un décès sur un chemin de randonnée ou sur la voie publique.
Vous prenez le matériel dans le coffre ?
Oui, ma sacoche, qui m'est relativement précieuse sur certains soins. Puis en plus, il y a même de la visite.
Même de la visite.
Et moi, j'arrive pas toute seule, Madame Biro.
Rentrez, monsieur.
Ah, bah, il est debout. Il est debout, Henri.
Oui, quand même. Hein ?
Allez, je vous pique le bout du doigt.
Ah, bah oui. Merci, madame.
Regardez, il y en a pas encore.
Ouais.
Voilà.
Merci.
Bon, la journée s'est bien passée ?
Oui, vous aussi ?
Bah oui.
Qu'elle continue.
Vous vous voyez souvent dans la journée, Viviane, elle vient souvent vous voir ? Elle vient tous les jours ?
Pratiquement tous les jours, oui. C'est rare quand elle a une remplaçante. Je parle du temps chez tout seul, quoi.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a nos petites habitudes quand même chez nos personnes qu'on voit, entre guillemets, très souvent.
Elle a toujours le temps de boire le café.
Voilà, c'est ça.
Quand elle me dit non, je me sauve, hop, elle s'en va, puis on remet ça le lendemain.
Vous savez qu'elle est aussi élue au conseil municipal ?
Ah oui, bien sûr. Il y a déjà quelques temps. Hein.
J'essaye quand même de mettre des barrières entre les deux. Eh bien, bonne soirée. Oui. Et puis, à demain. Demain, c'est ma collègue, c'est Marie-Claude.
D'accord.
Entendu. Et puis, on se revoit vendredi.
Très bien.
Voilà.
Comme ça, on n'est pas perdu. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui... Merci.
Le maintien à domicile pour les infirmiers libéraux, c'est très très important et c'est quasiment, on va dire, la moitié de notre travail. On a une EHPAD à Luis, mais bon, ils ne veulent pas y aller.
Garder un médecin, ça c'est un élément clé.
Un médecin qui vient s'installer tout seul, c'est fini ça. Le médecin, il veut travailler en groupe.
Mais là c'est le cas, il est tout seul votre médecin.
Là, il est tout seul, mais il a 72 ans. Là, il tient pour le moment parce que voilà, il a diminué son temps de travail. Par contre, il est toujours présent.
Ça, vous essayez de l'anticiper, l'après ?
Ouais, mais comment on fait ? Si vous avez une baguette magique, moi, je veux bien.
Avec Viviane Vaudrey, première adjointe ici à la commune, à la mairie de Luis, c'est aussi infirmière libérale. J'ai pas de baguette magique, j'ai pas de solution miracle. Emmanuel Ginet, je suppose que vous anticipez la suite. Votre médecin, il tient le coup, vous y êtes très attaché, mais il a plus de 70 ans. C'est quoi la suite ?
La suite, comme a dit Viviane Vaudrey, c'est très compliqué. Aujourd'hui, trouver des médecins, on n'en trouve pas, il y en a pas assez. Ils viennent pas dans les communes rurales. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'atteler à faire bouger les choses, mais on a encore la chance d'avoir le docteur Pérou sur notre commune. J'espère qu'il est là encore pour quelques temps, mais à mon avis, les 5-6 ans qui arrivent, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué.
Romain Mel, c'est devenu un sujet majeur ces dernières années au niveau de la vie communale, les déserts médicaux, et c'est un sujet qui peut peser là dans les élections qui vont nous occuper dans un peu plus de 2 mois maintenant.
Oui, si vous voulez, c'est un modèle classique en sciences politiques, la question de savoir comment est-ce que j'entendais vos collègues qui, plus tard dans l'après-midi, vont faire un truc sur le burn-out militant. Le fait de donner du temps en plus, comme le fait dans le reportage votre adjoint, c'est forcément quelque chose en plus de son travail. Et donc, il y a une sorte de dépense d'énergie militante. Mais ça peut pas durer toute une vie, vous voyez. Donc, il faut trouver un moyen de relever au sens militaire ces gens qui s'investissent énormément en plus du travail dans la commune pour leur permettre de passer la main à quelqu'un d'autre. Et donc c'est cet équilibre qui est difficile à trouver. Le moment où on est prêt à s'investir pour les autres parce qu'on on pense qu'on a du temps, et le moment où il faut qu'on se replie sur sa vie privée.
Vie personnelle, vie perso pour les élus. Annie Bionda, sur la présence des médecins, les habitants d'Ambléon, ils viennent chez le médecin ici à Luis ?
Non, les gens d'Ambléon, ils vont sur Belay.
Belay, oui. Et ils trouvent toutes les spécialités médicales ?
Oui, il y a l'hôpital, donc ils arrivent à trouver. Il reste quand même des personnes qui n'ont pas non plus de docteur. Et c'est compliqué aussi dans les petites communes, quoi. Aussi bien dans les petites communes que dans les communes comme la à Luce. Mais un docteur, faut pas rêver, à Ambléon aussi. Si ça arrivait, mais je sais pas, ça serait
un miracle.
Un miracle.
Ouais. Un peu plus de 100 habitants dans votre.
100 habitants. Dans viendrait votre peut-être habiter.
Mais en tout cas, si quelqu'un veut s'installer, il sera évidemment
le bienvenu. Hein.
Il nous reste
pas de
quelques minutes ici en direct de Luce dans ce 13-14 pour prendre une ou deux questions de la salle. Je me lève pour vous voir, madame. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Karine.
Karine, vous habitez à Luis ?
Non.
Où est-ce que vous habitez ?
Bourg-en-Bresse et Izieux.
Oh là, vous êtes venue de loin. Merci beaucoup d'avoir fait la route. Votre question ?
Ma question, enfin, c'est une remarque qui porte sur les modalités du vote.
Oui.
On parle beaucoup de ces nouvelles élections municipales avec ces nouvelles modalités de vote plutôt, et la parité, mais aussi les listes complètes. Donc, et on entend beaucoup parler dans les petites communes, et notamment à Izieux, j'en entends beaucoup parler que les électeurs, électrices n'auront plus le droit de rayer les noms. C'était vraiment une disposition particulière pour les petites communes. Est-ce qu'on peut avoir des indications, des réflexions sur aussi peut-être la plus faible participation pour certaines personnes qui pourront se dire qu'ils regrettent.
Je peux pas rayer, je viens pas.
Voilà.
C'est ça. Merci pour cette question. Romain Mels, on peut plus choisir, on prend ses à prendre ou à laisser.
Voilà.
Pigeon, c'est fini.
Qu'est-ce que vous dites, Annie Bionda ?
Elle appelle ça.
J'ai dit tir au pigeon.
Ah, le tir au pigeon, voilà. C'est quand on a quelqu'un dans le viseur et qu'on raye son nom. Ça fait beaucoup rire ici, mais quand on en est l'objet, ça fait un peu moins rire.
Ah, ça fait moins rire.
Peut-être. Donc ça, c'est terminé.
Oui, Romain Mels. Le panachage, ça s'appelle comme ça.
Voilà, le panachage.
On n'appelle pas ça le tir au pigeon traditionnellement, mais oui, c'est terminé. Et effectivement, on a failli parler de l'exigence de parité qui vient d'une loi de 2000. Et qui petit à petit s'est développé pour toucher toutes les élections et toucher pas les élections des communes de moins de 1000 habitants. Maintenant, c'est venu, c'est un peu le sens de l'histoire. Est-ce que ça va avoir une influence sur le taux de participation ? Je ne pense pas.
Emmanuel Ginet, la fin du panachage ?
Ouais, je pense pas que c'est qu'il y ait une grosse influence sur la fin du panachage. Par contre, il va falloir bien expliquer aux votants qu'on ne pourra plus rayer. Et ça va être là, parce qu'un bulletin qui est rayé, il est invalide.
Rayé, c'est nul. Donc ça part à la poubelle et ça n'est pas comptabilisé. Une autre question dans la salle ici, profitez-en, c'est vraiment dernier appel. Bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que vous vous appelez ?
Eva.
D'où est-ce que vous venez, Eva ?
De Luce.
De Luis, bon, à domicile.
Oui. Une petite question sur la vie culturelle du village, parce que je pense que ça rejoint un peu ce qui avait été posé sur les infrastructures pour les jeunes. On a la chance à Luis d'avoir quand même plusieurs associations qui essayent de faire vivre culturellement le village. On a la bibliothèque aussi qui essaye d'être très active et qui essaye de faire venir des enfants et des jeunes. Malheureusement, ça marche pas toujours. On voit toujours un peu les mêmes têtes dans les festivités, les événements culturels. Et je trouve qu'il pourrait y avoir des choses faites au niveau du projet du village pour
aller chercher les gens
de culture. Parce qu'on est quand même loin des grands centres culturels. Ça fait en zone rurale, c'est difficile d'accès. Pour beaucoup de gens, il faut se déplacer en voiture. Et du coup, d'avoir un projet, que ce soit d'amener un festival. Enfin, il y a des communes qui font ça, qui amènent une grosse vie culturelle au village autour d'un événement ou autre chose. On a plein de choses au niveau sportif, mais au niveau culturel.
La culture. Merci infiniment pour votre question, Emmanuel Ginet.
Alors, c'est vrai que, alors déjà, sur Luis, il y a un tissu associatif qui est très, très important. Il y a 24 associations. Ça va du culturel au sportif, comme vous venez de dire. Après, on aide au maximum nos associations, les présidents et les bénévoles, pour que ça puisse se développer et par contre faire venir du monde, je sais pas.
Et un festival.
Et un festival. Bah alors déjà un festival, il va falloir trouver les week-ends à Luis, parce que c'est
c'est blindé tous les week-ends. On a quand même une vogue. Il y a 3 jours de bal, il y a 4 jours de vogue. Il y a
des... La vogue, c'est quoi?
C'est au mois d'août. C'est d'accord. La fête du 15 août.
La fête du 15 août.
Donc, voilà. Bon, voilà. Cas, après, on est toujours preneur.
Vous êtes preneur et la campagne et le débat est bien lancé. Mais puisque vous avez parlé de culture et merci de l'avoir fait, avant de se quitter, c'est une tradition dans ce 13-14, notre clin d'œil à la région qui nous accueille. On a parlé des comptes de l'argent des communes. Là, ce sont les comptes C-O-N-T-E-S, les histoires, les légendes que 3 conteuses ont collectées en parcourant le département de l'Ain à vélo pendant 2 ans. Elles en ont fait une lecture spectacle et parmi elles, Claire Parma.
L'idée de ce projet de La Roue qui tourne, c'est effectivement d'aller en vélo porter le spectacle à la rencontre des habitants et du public dans des lieux complètement différents, de proposer des histoires le temps d'une veillée comptée et puis de permettre aux habitants ensuite de raconter des récits de vie autour de la transmission et leur lien à ce territoire. Des habitants de la plaine et donc tournés vers Bourg-en-Bresse, Lyon, des habitants des petits villages du Bugey. Parmi les soirées et les témoignages qui nous ont marqués, on se souviendra de cette soirée passée dans la cave à Cré-Seyona, où les langues se sont déliées tout à coup. L'histoire de cet épicier ambulant, et puis des petites phrases qu'on nous a données par-ci, par-là, comme celle-ci. L'avenir est un chemin éclairé avec une bougie qu'on porte dans son dos. Alors, on voit pas grand-chose. Et ça, c'est une petite phrase qui a été confiée par un grand-père à son petit-fils.
Et ce spectacle sera donné le 31 janvier, ici même, à Luis. Je retiens cette phrase. Hein. L'avenir est un chemin éclairé avec une bougie que l'on porte dans son dos. Vous pouvez méditer. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là aujourd'hui, auditeurs du 13-14. Les remerciements pour Éric Gérard, notre chargé de production à la technique, Martin Troadec, Hélène Langlois, Alexandre James, Cécilia Arbona, notre rédactrice en chef, Sonia Gobry, notre reporter, Camille Poux-Jalaguier, notre attachée de production. Merci infiniment également à la commune de Luis qui nous a chaleureusement accueillis aujourd'hui. Dans un instant, Mathieu Vidard, La Terre au Carré.